Ben, merci beaucoup. Alors, oui, merci Emmanuel pour cette introduction. Avant de commencer, en fait, si je pouvais un petit peu voir dans quel univers vous êtes, vous êtes encore étudiant, certains, j'imagine. Quels sont vos Est-ce que certains, par exemple, c'est surtout ça que je voudrais savoir, sont amenés à faire du journalisme ou en ont fait ou s'orientent vers ce genre de carrière ou pas?
Légèrement,
c'est-à-dire.
D'accord.
D'accord. Donc, mais côté, en fait, tu travailles
pour
les Républicains. Donc, ouais. Tu es engagé en politique.
Exactement.
D'accord. Donc, tu es de l'autre côté, quoi.
Oui.
D'une
certaine
façon.
Alors, je suis embauchée par la région de France, mais effectivement, ouais. Je n'ai pas ma carte pour le moment républicain.
D'accord.
Mais effectivement, il y a
parti pris. Oui. D'accord, d'accord. Donc voilà, donc et les autres, non, vous, oui.
Est-ce que vous... Moi, je travaille dans une radio, ça se voit pas, mais...
D'accord, ok. Laquelle ?
Merci.
D'accord, ok. Non, mais question pour parce que je dirais en préambule et de façon un petit peu provocatrice que ceux qui veulent s'engager, en tout cas faire du journalisme aujourd'hui, je dirais que c'est triste hein, d'en arriver à parler de sa passion comme ça, mais c'est tellement difficile. Enfin, c'est tellement difficile d'arriver à en vivre aujourd'hui. Je fais partie d'une profession qui est sinistrée, qui s'est considérablement appauvrie. Hein, alors, pour compléter un petit peu l'introduction, ça fait 25 ans que je travaille à Paris Match. J'ai la chance de travailler encore dans ce média qui donne encore les moyens aux reporters de faire des reportages. 25 ans, je viens de fêter mes 50 ans, donc j'ai passé la moitié de ma vie dans ce journal, mais j'ai vu malheureusement cette profession s'appauvrir. Et être finalement bouffé par la com. J'entends bouffé par la com, bouffé par, vous remarquez dans le paysage médiatique aujourd'hui, vous avez beaucoup de présentateurs ou de gens qui vous disent ce qu'il faut penser. Je peux en citer certains, Christophe Barbier, Jean-Michel Apathy et autres. Sans que leurs paroles ne soient absolument connectées au réel. C'est-à-dire, c'est des gens qui travaillent, hein, je ne dis pas qu'ils sont ce qu'on appelle des éditorialistes ou des analystes. Et en fait, le métier de journaliste, malheureusement, avec la médiatisation, hein, c'est un phénomène, et encore plus peut-être avec Twitter et les réseaux sociaux, est devenu un métier d'image et un métier qui s'est, à mon sens, en tout cas, Pas tous les journalistes, hein, je vous rassure, mais c'est éloigné de sa mission première. C'est-à-dire que le problème, c'est aujourd'hui, dans beaucoup de cas, le journaliste lui-même est le sujet. L'exemple parachevé de tout ça, et j'ai rien contre lui, hein, c'est plutôt un mec sympathique, c'est Cyril Hanouna. Par exemple, Cyril Hanouna, c'est l'incarnation, en fait, c'est lui dans le show. Peu importe sur quoi il parle. Là, il est allé interviewer Jean-Marie Le Pen. La semaine d'avant, il y avait une émission sur Michael Jackson. J'y suis allé. J'avais couvert le procès de Jackson en 2005 aux États-Unis et il m'a invité à son émission. Et j'ai regardé ça. Je me suis dit, j'ai longuement hésité à y aller en me disant, moi, je ne suis pas du tout dans cette sphère. Mais j'y suis allé pour regarder un peu ce cirque incroyable qui est en fait, voilà, c'est du théâtre. On est dans une mise en scène permanente. Mise en scène, alors, Cyril Hanouna est l'incarnation, mais ça existe au niveau des blogueurs, au niveau des réseaux sociaux, où des gens passent leur vie à se mettre en scène, en fait. On est dans une culture du selfie, en fait. Et par rapport au type de journalisme dont je vais vous parler ce soir, c'est différent, quoi. C'est-à-dire que moi, ma façon de faire du journalisme et ma façon dont on m'a appris, justement, dont mes pères en journalisme à Paris Match m'ont appris, c'est d'abord un journalisme d'écriture, un journalisme de faits et un journalisme qui, même si parfois, oui, vous êtes, il peut vous arriver de faire partie de l'histoire, En général, c'est pas bon quand vous devenez le sujet du reportage, ça veut dire qu'il vous est arrivé quelque chose de grave ou que c'est obligé. Mais sinon, vous êtes là pour raconter les histoires des gens. En fait, votre mission première, c'est d'aller dans des endroits. Et dans ma carrière, j'ai eu cette chance inouïe dans Paris Match, grâce à Paris Match, de pouvoir aller pénétrer dans des sociétés, parler à des hommes politiques rares, en fait, c'est-à-dire d'avoir des moments comme ça où on a l'impression d'accompagner l'histoire. Ce soir, j'avais proposé on n'avait pas les moyens techniques, mais de vous montrer un extrait de mon prochain documentaire là qui sort sur la bataille de Mossoul. Quand on est dans les circonstances dans lesquelles on était il y a 2 ans à accompagner les soldats en première ligne de la bataille de Mossoul, on accompagne l'histoire en marche, c'est-à-dire on accompagne une armée qui est en train de reconquérir la plus grande ville tenue par l'État islamique. C'est extrêmement grisant d'un point de vue émotionnel, mais c'est surtout d'un point de vue intellectuel l'idée d'accompagner l'histoire qui s'écrit. Voilà. Et cette mission-là, elle se fait en racontant les acteurs. Et ces acteurs, vous êtes avec eux, mais en réalité, vous n'avez rien à faire là. Vous n'êtes là que pour témoigner. Vous n'êtes là que parce qu'ils vous ont laissé ce petit espace qui va vous permettre justement de raconter. Voilà. Et dans Paris Match, on ne fait que ça. Alors, arriver sur le sujet du jour, qui est la couverture des guerres. Alors, la couverture des guerres, évidemment, cette année, nous, on fête, là, dans un mois, les 70 ans de Paris Match. Donc ça fait 70 ans que Paris Match a comme mission le grand reportage. Ça, c'est un des piliers du journal. Il y a d'autres choses, hein. Il y a de la politique, il y a du people, il y a du, voilà, des célébrités, plus que ça d'ailleurs. Il y a des sujets légers, il y a des sujets très lourds. Donc c'est un journal qui alterne le joyeux et le grave. C'est un journal dont la définition, en fait, moi je trouve que la meilleure définition de ce journal, elle a été donnée par notre directeur historique qui s'appelait Roger Théron, il disait Paris Match structure le chaos. C'est-à-dire la semaine qui passe prodigue une infinie quantité d'informations, de sujets, etc. Et l'idée de te présenter dans Paris Match, justement, c'est de raconter la vie de cette semaine, la vie des gens, l'infiniment proche, l'infiniment lointain, en les amenant dans des endroits où ils n'iront jamais, en leur faisant découvrir des personnages qu'ils ne verront jamais, des personnages très éloignés, très... comment dire, fantasmé, et en même temps aussi dans les faits divers, dans ce qui se passe aujourd'hui, les gilets jaunes et autres, des phénomènes qui sont très proches d'eux. C'est-à-dire c'est à la fois l'infiniment lointain et l'infiniment proche. Donc ça, c'est cette façon-là de faire du journalisme, c'est reporter littéralement ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, l'écrire, le avoir justement cette ambition pour le lecteur de le faire le mieux possible. Et donc c'est un journaliste plutôt à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire basé sur le factuel, basé sur les bonnes histoires, les histoires bien ficelées. Et ça, on fait ça depuis 70 ans. C'est peut-être une des raisons pour laquelle, malgré la crise de la presse aujourd'hui, Paris Match reste un des médias forts, avec encore une puissance au niveau de son lectorat, même si tout ça, évidemment, avec les changements des habitudes de consommation. Bon, voilà, on a maintenant des applis Snapchat et autres. On est présent sur des médias très, très particuliers et très jeunes. Hein, quand on a 600 000 visiteurs sur notre appli Snapchat tous les jours, c'est une population entre 13 et 24 ans. Le lecteur moyen de Match, pour vous donner une idée, c'est 53-54 ans. C'est une femme à 61%. Voilà, donc on n'est pas du tout sur les mêmes populations, mais on trouve intéressant que pour toucher ces jeunes, on essaye justement d'utiliser ces plateformes et de les développer. Bon, évidemment, le site web, voilà, et tout un tas d'autres applications. Mais c'est un effort permanent pour porter cette expérience Match qui reste globalement la même, c'est-à-dire une entrée par la photographie, par l'image. Ça, on l'a fait de tout temps, et par l'aspect humain des choses. C'est-à-dire, ce qui est intéressant dans ce métier, c'est quand on va raconter la vie des gens, c'est on va les mettre en scène. On va presque avoir le rôle d'un réalisateur. Alors, dans un conflit, c'est quelque chose d'assez... dans un conflit, c'est... c'est difficile à la fois, puisque évidemment il y a des risques, mais c'est ce qui est extraordinaire dans la guerre. Je vais vous dire, il y a une chose qui est formidable dans la guerre, c'est que vous rencontrez des gens extraordinaires dans des endroits les plus sombres et les plus reculés. Vous avez toujours ces espèces d'éclats d'âme comme ça qui se révèlent, parce que la guerre n'a qu'un seul intérêt. C'est qu'elle vous révèle, et elle révèle aux personnages qui la vivent, leur nature sans filtre. C'est-à-dire qu'on a vu dans des guerres des types qui étaient désignés comme étant absolument héroïques, etc., qui devaient naturellement, et qui se sont comportés comme des lâches, et puis des gens qui étaient rien du tout, et qui sont devenus des héros. Donc la vraie nature apparaît sans filtre, et les rencontres sont incroyables. Elles durent pas longtemps, mais elles sont souvent éblouissantes. Voilà. Alors donc, pendant ces 70 ans d'existence de Paris Match, Paris Match a couvert à peu près tous les conflits de la planète, les conflits importants. Hein, donc ça a été au début, donc 1949, 1950, ça a été la guerre de Corée. Guerre de Corée très peu médiatisée, donc je vais y revenir pour vous expliquer dans un premier chapitre, on dira quel type de guerre, pourquoi la guerre a changé. La guerre de Corée est un bon exemple, parce que la guerre de Corée, moi c'est j'avais rencontré un vétéran du Vietnam qui avait fait la guerre de Corée, et il m'avait dit, un Marines. Il m'avait dit, vous savez, en Corée, il y avait un front. Donc, on partait à la guerre, il y avait un front. Au Vietnam, il n'y avait plus de front. Voilà. Et donc, le Vietnam introduit dans les guerres un changement. Bonsoir. Introduit dans les guerres un changement considérable, c'est-à-dire que on est dans ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec cette notion. C'est-à-dire que la guerre asymétrique, c'est une guerre due avec un trait, un faible et un fort. Et je ne dis pas que les guerres d'avant, front contre front, pouvaient y avoir des puissances, mais on ne faisait pas la guerre comme on l'a fait au Vietnam. Et au Vietnam, un certain nombre les problèmes que les Américains ont rencontrés dans cette guerre, c'est qu'ils ne comprenaient pas leur adversaire. Je me souviens le ministre de la Défense à l'époque américain, c'est un type qui s'appelait Robert McNamara. Et Robert McNamara, en 1992, il a rencontré Giap, qui était le général, le commandant en chef des forces Vietcong, nord-vietnamiennes. Et c'était la première fois qu'ils se rencontraient dans leur vie. Et il a posé une question à Giap. Il lui a dit, j'ai toujours voulu savoir pourquoi, durant l'offensive du Tet, l'offensive du Tet, c'est l'offensive charnière de la guerre du Vietnam. C'est en 1968, février 68. Tout le monde, l'armée américaine dit le Viet Cong est à genoux, ils n'ont plus, ils avaient pas capacité de monter une opération, la guerre va finir et on va gagner. Et manque de chance, l'offensive du Tet, le Tet voulant dire le nouvel an en Asie, l'armée nord-vietnamienne va lancer une offensive sur tous les fronts. Ils vont perdre plus de 500 000 hommes, c'est juste énorme. Mais dans l'opinion américaine, ils vont réussir à introduire délibérément l'idée que la guerre n'est plus gagnable. Donc en fait, c'est à partir du Tet où le Viet Cong perd militairement, mais il gagne, un peu comme la France aussi avec la bataille d'Alger, il perd une défaite militaire, une victoire militaire apparente de la puissance, en l'occurrence la France ou les États-Unis, se transforme politiquement en une défaite. Voilà. Et l'idée du Viet Cong, c'était justement de sacrifier ses combattants de façon à créer ce doute dans l'opinion américaine. Alors ce qui est intéressant avec le Vietnam, et je vais venir justement à l'idée de la couverture de cette guerre, dans le photojournalisme, qui est notre activité, pour les reporters comme pour les photographes, le Vietnam est considéré comme l'âge d'or du photojournalisme. Pourquoi il est considéré comme l'âge d'or ? Parce que on a pu envoyer au Vietnam des photographes, des reporters, quasiment avec les unités, qui vivaient avec les unités, qui partageaient leur vie, etc., quasiment sans contrôle, et il y avait des accès permanents. Voilà. Seulement, ce qui s'est passé au Vietnam, c'est que la guerre, pour la première fois, elle se gagne sur le champ de bataille, mais elle se perd médiatiquement. Et ces photographes, évidemment, ont ramené des images qui ont contribué. Il n'y a pas que des photographes, hein, il y a des caméramans aussi. Par exemple, je me souviens de la chaîne CBS, qui était très, très en pointe sur ses reportages au Vietnam. La chaîne CBS, dont le présentateur était un type qui s'appelait Walter Cronkite. Et Walter Cronkite, tous les soirs, donc il y avait le journal de 18h, il s'invitait chez les Américains suivaient la guerre, et il correspondait avec un type qui était sur le terrain, qui accompagnait une unité. C'était très facile, donc. Et un soir, dans un des programmes, Walter Cronkite interviewait le reporter qui était avec une compagnie. Il y avait un village, derrière il y avait des toiles, des maisons avec des toits en chaume, et tout à coup le reporter se rend compte que l'unité avec laquelle il évolue est en train de mettre le feu au village. C'est-à-dire il voit les types arriver avec des torches en direct, et ça évidemment c'est-à-dire que les Américains au Vietnam se sont rendus compte que certaines de leurs troupes pouvaient, en gros, psychologiquement, se comporter comme des nazis. Or, les Américains se percevaient comme ceux qui avaient vaincu les nazis, donc ce qu'on a appelé « the greatest generation », c'est-à-dire la génération des combattants de la Seconde Guerre mondiale, et cette « greatest generation », eh bien, tout à coup, elle devenait, on s'apercevait qu'il y a eu des massacres, il y a le massacre du village de My Lai, et que ces faits, eh bien, ont contribué évidemment à renvoyer à l'Amérique une mauvaise image d'elle-même, et donc à accélérer justement le désintérêt, ou en tout cas le dégoût du peuple américain pour cette guerre. Donc le Vietnam a été très important d'un point de vue de l'image. Il a été, voilà, l'âge d'or du photojournalisme, parce que un certain nombre de reporters et de photographes ont pu se rendre sur le terrain, ramener des images incroyables. Je pense à Don McLean, par exemple, ou à Larry Burroughs, Catherine Leroy. Moi, j'ai eu la chance, justement, de refaire un sujet avec Catherine Leroy. Catherine Leroy, c'est une des premières femmes photojournalistes qui est partie, elle avait 18 ans, accompagnée des troupes américaines au Vietnam. Donc, elle a ramené, elle était assez... elle a eu une carrière marquée, très marquée par cette période, puisqu'elle a été blessée... puis elle a pris 32 éclats d'obus dans le corps ou un truc comme ça à un moment. Elle a été laissée pour morte. Enfin bon, il y a eu... C'est une grosse miraculée de ces expériences. Mais Catherine Leroy, voilà, ça fait partie des gens pour lesquels le Vietnam a été une sorte de révélateur. Ce qui est très intéressant, ce qu'il faut noter aussi, c'est que chaque guerre ouvre à une génération... Enfin, beaucoup, hein, pas les petits conflits, mais les gros conflits, ouvrent à une génération de photographes. Donc il y a effectivement, la guerre de Corée, très peu d'images, censure militaire, de la même façon que la Seconde Guerre mondiale. Hein, la Seconde Guerre mondiale, on retient les images de Robert Capa, mais celle de la libération du D-Day, où on voit ce soldat qui est dans l'eau, et quelques images, mais on connaît le nom de Robert Capa, mais voilà, y a pas, les photographes n'ont pas d'identité. Au Vietnam, ils prennent, ça devient des stars. Larry Burroughs, c'est la star de Life Magazine. C'est des gens qui... Henri Huette, qui est un photographe français, c'est la star d'Associated Press. Donc, tous ces gens-là ont une personnalité qui rejaillit avec leurs photos. Et donc, comme je vous le disais, donc, le Vietnam, génération Vietnam, c'est une génération de photographes. Ensuite, il y a celle du Liban, quand il va y avoir la guerre civile au Liban dans les années 80, donc juste après. Ensuite, il va y avoir les Balkans aussi. Alors, les Balkans, moi, c'est l'époque où j'ai commencé ma carrière à Paris Match, c'est-à-dire les années 94-95, voilà, c'était la Tchétchénie, c'était les guerres de l'Est, le mur avait explosé, l'URSS avait disparu, et donc tout ça se recomposait dans un bain de sang souvent. La Yougoslavie avait disparu également. Donc, à la faveur de ces conflits, une génération de photographes est née. Ça, c'est directement celle... avant la mienne, photographe et de reporter. Moi, je n'ai pas participé au conflit des Balkans. Et moi, pour moi, ce qui a été déterminant, c'est le 11 septembre. Puisque le 11 septembre, ça, c'est encore une date charnière qui va faire une nouvelle génération de photographes. Afghanistan, invasion de l'Afghanistan, Irak ensuite. et tous ces conflits extrêmement pesants, extrêmement meurtriers, qui pèsent aussi sur les populations, qui pèsent financièrement aussi, qui ont impliqué l'Amérique, le Vietnam, au maximum de l'engagement américain, il y a eu 535 000 soldats. C'est énorme, mais il y avait ce qu'on appelait la conscription, c'est-à-dire il y avait le service militaire obligatoire pour être envoyé au Vietnam, ce qui a pesé aussi sur la société américaine de façon considérable. En Irak, on est dans une armée professionnelle, on est monté au maximum à 150 000 hommes. Mais 150 000 hommes présents sur le théâtre irakien, c'est énorme dans un pays. Voilà. Et pour l'Amérique, c'était énorme. Donc ça a fait des guerres. L'Afghanistan, c'est plutôt 80 000 à 100 000 à certaines époques. Et aujourd'hui, on est autour de 25 ou 30 000 encore de présents en Irak. Il y a encore des Américains, mais là, on est plus sûr de l'appui et de la formation, comme les Français le font aussi, des unités irakiennes qui, à la faveur justement de la reconquête du territoire de Daesh, a mûri, a gagné en cohérence et aujourd'hui est relativement une bonne armée maintenant. Mais voilà. Donc il y a à chaque fois pour... et puis la dernière génération, je dirais, les petits jeunes, c'est la génération Printemps arabe. Alors Printemps arabe avec le cas de la Syrie qui est... qui pose... On en fera peut-être un petit aperçu à la fin sur la Syrie parce que c'est très très particulier. Donc tout ça, tout ça pour vous dire voilà comment... la façon dont on travaille pour l'idée de couvrir une guerre. Quand on va couvrir une guerre, d'abord, on ne part pas couvrir une guerre comme ça. Hein. Vous n'arrivez pas à Paris Match ou au Monde ou à Libération ou dans d'autres journaux et vous dites « je veux partir couvrir la guerre ». Ça prend un petit peu de temps avant que vous arriviez à ce stade-là. C'est vrai que le reportage de guerre, moi je considère que je ne me considère pas comme un reporter de guerre. Je suis un reporter, j'ai fait tout type de reportage, dont la guerre. Voilà. Mais je dirais que je ne fais pas que la guerre. Donc l'idée, oui, on va couvrir des guerres, certes. C'est vrai qu'en termes d'engagement et en termes de parcours de vie, ça reste... la chose peut-être la plus intense dans nos... la chose qui va forger le plus nos personnalités, surtout avec ces guerres asymétriques dont je vous parlais. Pourquoi je disais guerre asymétrique? Tout simplement parce que la question du danger, quand on va sur un terrain de conflit, on nous dit « fais attention à toi », etc. Oui, c'est vrai, il faut faire attention à soi, on fait au maximum attention à nous, mais... moi, je connais des gens qui ont été blessés parce qu'un obus est tombé sur leur tente alors qu'ils étaient complètement sur l'arrière et qu'il n'y avait aucune offensive, rien ce qui se passait dans le secteur. C'est-à-dire qu'on est dans la configuration, on reste dans la configuration Vietnam où l'ennemi est prêt à tout pour infliger des blessures à la force occupante, en gros. Et en fait, ce qui est quand même intéressant, c'est que les guerres se répondent dans la mesure où on part pour l'Afghanistan ou pour l'Irak de guerres dites de libération, pour la Libye également. Et puis, comme la libération, ben, une fois que tout est cassé, il faut bien qu'une force tienne le pays en un seul morceau, sinon c'est l'anarchie. La Libye, on n'en est quand même pas loin. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que la plupart de ces conflits modernes n'ont pas de plan B. C'est-à-dire il y a une offensive et on croit, et l'emballage médiatique à chaque fois est le même. Hein, vous remarquerez que ce soit pour l'Irak, la Libye, la Syrie, c'est on va abattre le dictateur et, comme par enchantement, la démocratie va naître parce que le peuple aspire comme nous. En fait, c'est une vision très colonialiste, entre guillemets, on peut l'appeler, mais c'est une vision très occidentale qu'on a de ces réalités-là. On considère que chaque être humain a sa liberté et qu'elle ne demande qu'à éclore. Vous prenez un chiite en Irak qui fait partie d'une tribu. Pour lui, la notion de liberté, c'est de pouvoir voter, comme le chef de tribu. Voilà. Pour lui, c'est-à-dire pouvoir respecter l'ancien, la parole de l'ancien. C'est pas du tout une vision individualiste, c'est comment être intégré dans le groupe et faire que le, parce que le groupe, c'est la référence. Voilà. Donc la notion de liberté, ça, quelqu'un comme George Bush, par exemple, avait vraiment cette sacro-sainte croyance que chaque être humain a une part de liberté et qu'elle ne demande qu'à éclore, et que attaquer l'Irak, renverser Saddam Hussein, c'était une manière de... voilà. Seulement le problème, c'est quand vous avez quelqu'un comme Saddam Hussein qui est là depuis 30 ans au pouvoir, qui a créé une chose, c'est pas que Saddam Hussein avec son côté grand quignolesque, ses armes à feu et son, sa moustache et ses, son côté un petit peu, comment dire, Nabucodonosor, quoi, l'espèce d'empereur. C'est pas que lui, la société est complètement quadrillée par un truc qui s'appelle le parti basse. Et le parti basse, si le parti s'en va, c'est les juges, le parti nomme les juges. En fait, il fait fonctionner toute la société. Ça ne veut pas dire que c'est un absolu, hein, le parti basse, c'est quand même une belle saloperie. Mais quand vous enlevez le parti basse, ben, il reste quoi? Il reste ceux qui sont prêts derrière, c'est-à-dire essentiellement les religieux. Parce qu'eux, ils ont un ordre, ils ont une stratégie, et eux, ils savent où ils vont. Le reste, voilà, donc rapidement dans l'insurrection, dans les insurrections qui se sont créées en Afghanistan ou en Irak, la dimension religieuse a pris le dessus. Et ça a été le même cas en Syrie, où là aussi, on a vu dans l'émergence de la révolution syrienne une sorte de copie de ce qui s'était passé en Tunisie, de ce qui s'était passé en Libye, de ce qui est... Voilà. Et on y a projeté avec toutes nos forces et avec tout notre effet médiatique, d'une certaine façon, on a projeté sur la Syrie un peu l'idée que la révolution triompherait, qu'on arriverait à imposer la démocratie, etc. etc. Donc ça, ça se passe très souvent de cette façon-là. Donc, pour couvrir ces conflits, pour revenir sur le rôle du reporter et du photographe, foutre les pieds dans ce pays, dans ces pays-là, c'est déjà prendre un risque. Moi, j'ai vu des scènes, je me souviens, à Bagdad en 2006, dans lors de mes premiers reportages en Irak, j'ai vu des scènes où des types cagoulés étaient sur un pick-up. Ils sont arrivés, on était en civil, on était dans une voiture civile. On a vu des types arriver cagoulés, complètement en camouflé, avec donc un fusil mitrailleur à l'arrière d'un pick-up, et un autre groupe est arrivé cagoulé, avec aussi pas des patchs. Ils ont commencé à se tirer dessus, on n'a jamais su, on était à regarder, on ne savait pas qui tirait sur qui, ni pourquoi. Voilà. Donc c'est Bagdad, l'hiver 2006, c'est-à-dire c'est la pleine période de des règlements de compte de type ethno-confessionnel, c'est-à-dire les chiites contre les sunnites, quoi, en gros. Globalement, les chiites prennent le dessus dans la capitale, et ils essaient d'expulser tous les éléments sunnites vers la province d'Anbar, qui est à l'ouest. Donc, méthodiquement, ils vont prendre maison par maison pour essayer justement d'homogénéiser, de rendre Bagdad uniquement chiite. Donc, voilà, ça, c'est ce genre de choses où, quand vous êtes un soldat américain au milieu de tout ça, et je me souviens d'exemples où il y avait des affrontements, on faisait des opérations, on défendait des mosquées pour que l'office puisse se tenir, des mosquées sunnites, qui étaient l'objet de ce qu'on appelait les escadrons de la mort. C'était des milices chiites parallèles à l'armée du Mahdi, qui venaient, qui s'infiltraient depuis Sadr City, etc., depuis Choula, qui était un quartier aussi chiite au nord, et en fait, qui grignotaient tous les quartiers. Donc ça, ce genre de choses, quand le soldat américain, lui, n'a pas la... Alors on comprend la dynamique, mais le soldat américain, je me souviens d'exemples aussi d'un jeune soldat qui venait d'arriver dans l'unité. On était dans un quartier chiite, et les chiites, à la différence des sunnites, eux, sont autorisés à représenter leurs imams, leurs prophètes. Donc l'imam Ali, il est partout, il est très très beau. Il y a l'imam Hussein, l'imam Ali, en gros, c'est les deux principaux. On les voit, et effectivement, l'imam Ali, il a ce visage avec cette barbe, etc. Et ce jeune soldat américain de dire dans le MV, c'est fantastique. Ils ont même, ces gens sont formidables. Ils ont même mis des portraits du Christ. Donc bon, ses copains lui ont expliqué que c'était pas tout à fait ça, mais voilà. Donc il y avait cette espèce de naïveté de dire voilà, on est là. Les Américains disaient toujours I'm here to make a difference. I'm here to do good. Voilà, c'est toujours l'idée que on occupe pour. Faut bien se donner une raison, mais on est là pour libérer ces gens, for the Iraqi people, machin, pour que les Irakiens deviennent des Américains un peu, quoi, qui soient un peu comme nous, quoi. Voilà, c'est aussi un truc très américain, moins français, ça, mais très américain d'imaginer qu'en fait, que pourquoi ce qui est inconcevable pour un Américain, c'est que quelqu'un d'un autre pays ne veuille pas devenir américain. Ça, c'est un truc. Alors, je parle des catégories classe moyenne, quoi, mais c'est très caractéristique chez les Américains, ce genre de choses. Donc voilà. Donc nous, on a passé beaucoup de temps, évidemment, à ces époques-là, dans ces circonstances-là. Donc on vit avec l'unité. Ça, c'est un peu différent du Vietnam, c'est-à-dire qu'on peut pas changer d'unité, mais quand la guerre devient complètement chaotique et que vous êtes dans une situation de guerre civile au sein d'une ville comme Bagdad, c'est extrêmement intéressant parce que d'être avec une unité, on va pas pouvoir vous cacher des choses. Si y a un IED qui explose sous la roue du véhicule qui est devant vous, ou si y a un obus qui tombe, voilà, vous êtes là. Et donc vous prenez des photos et vous vivez avec les soldats. Les soldats vous finissent par vous oublier. Enfin, au début, il y avait toujours cette espèce de petit. Parce que moi, j'étais français, je travaillais avec un photographe américain, donc j'ai beaucoup travaillé avec ce photographe qui malheureusement a été tué en Libye au moment de la chute de Kadhafi. Et j'ai fait donc l'Irak. Il s'appelait Chris Ondros. J'ai fait donc l'Irak, l'Afghanistan avec lui. Et lui, il travaillait pour l'agence Getty. Et qui était une agence américaine. Donc pour moi, c'était plus facile d'accéder grâce à lui aux unités américaines parce que à chaque fois, moi, je me payais. Ah oui, vous êtes français, vous ne nous soutenez pas. Donc c'était un peu tendu au début. Mais les Américains ont aussi des avantages, c'est qu'ils ont toujours ils vous donnent toujours le bénéfice du doute. Donc si vous êtes sympa, si vous savez vous intégrer et qu'ils voient que vous êtes. Bon, moi, souvent, je leur disais, écoutez, oui, la France n'est pas avec vous, mais. Et le mec dit, are you going to talk trash about us? Je dis non. Pourquoi je raconterais les. Si je voulais dire des saloperies sur vous, je resterais chez moi et je les dirais de chez moi. Et ça, le mec dit, ah ouais, ok. Si je viens vous accompagner, si je prends le risque de venir ici, c'est quand même que, bon, voilà, je ne suis pas là que pour dire du mal. Donc voilà, donc ça, c'est comme ça que je m'intégrais. Mais je travaillais donc avec ce photographe. On travaille, quand on couvre ces guerres, en binôme. C'est-à-dire, on se connaît super bien, on choisit son binôme. Moi, j'en ai eu plusieurs hein, dans ma carrière. Il y en a un autre donc avec qui j'ai couvert Mossoul, qui s'appelle Alvaro Canovas. C'est un des grands photographes de Paris Match. J'ai travaillé avec d'autres photographes, David Turnley, d'autres photographes américains, des photographes français aussi. Mais essentiellement, avec ces deux-là, avec Chris et Alvaro, donc en fait on fonctionne en un peu en couple, c'est-à-dire que quand le reporter sur le terrain, le photographe il a souvent une vision très très, alors il a sa composition, son cadre quand il va faire son image, il y a de l'action, il y a un truc qui se passe, il y a un contact, bon ça pète de partout, il fait ses photos. Et puis, mais il ne voit pas ce qu'il y a à côté, il ne voit pas forcément ce qu'il y a derrière, et vous êtes là, quoi. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire à Alvaro, ou à Chris aussi, faut qu'on se barre, quoi. Là, on ne reste pas, quoi. C'est quand tout à coup, vous êtes dans une rue, et puis vous êtes un peu isolé par rapport à l'unité, il y a une distribution de nourriture ou de couverture, je me souviens d'un jour. Et puis, il y avait une foule qui était dans la rue avant, il y avait des enfants partout, et puis tout à coup, il n'y a plus d'enfants. Ça, en général, c'est un signe qu'il va se passer un truc. Donc, Alvaro, qui était focalisé sur... Non, c'était Chris, qui était focalisé sur cette distribution de couverture. Il y avait toujours des femmes qui venaient pleurer pour avoir une couverture. Je ne sais pas très bien pourquoi ils avaient besoin de couverture. Il faisait 50 degrés, mais bon. Et ça, c'est aussi des choses, parfois, il y a il y a une logique qui n'est pas toujours immédiatement perceptible. Mais donc... Lui, il était focalisé là-dessus et je lui ai dit, écoute, faut qu'on se barre aussi. Une autre fois, on avait accompagné une unité en pleine nuit pour faire un mur entre deux communautés pour empêcher ces fameux escadrons. Donc il y avait une grue. On avait escorté une grue qu'on était allé chercher, un truc complètement dingue, parce qu'il y avait à l'époque beaucoup de d'IED. Vous savez ce que c'est, les IED, hein, il n'y a pas de problème. Donc c'est les bombes, en gros, sous la route. Il y en avait énormément dans Bagdad, et c'était déjà prendre un risque fou d'aller chercher à l'autre bout de la ville une grue, de l'escorter pour revenir dans le quartier, et à la fin, au milieu de la nuit, d'aller la remettre là-bas. Donc une espèce de truc, tout ça pour arrêter les infiltrations. Et donc on s'était positionné pendant que le chantier se construisait. On avait fait des photos du chantier, et puis au bout d'un moment, ça devenait extrêmement rébarbatif, il ne se passait rien. On va se mettre sur un toit avec une unité, il y avait un sniper, voilà, il y a un poste qui est mis sur le toit, et on se dit, tiens, il fait bon, on est à Bagdad en plein été, c'était en juillet, voilà, à minuit, il fait encore 20-25 degrés, très agréable, donc on somnole et Chris lui s'endort. Et à un moment, je commence à entendre des tirs un peu plus loin. Je vois le soldat, il me dit oh, police station, they're being attacked, machin. But it's not, we're not gonna move. Bon, okay. Donc on entend les tirs. Puis au bout d'un moment, j'entends les tirs qui se rapprochent. Déjà, je dors plus, mais mon pote dort toujours. Et puis au bout d'un moment, les tirs étaient... je commençais à avoir des balles qui... et les soldats se repliaient. Donc là, je réveille Chris et je lui dis, voilà, faut qu'on se barre, quoi. Faut pas qu'on reste, parce que quand tu commences à avoir les balles... Mais il y a des choses comme ça à Bagdad, des parties de tennis, je me souviens, où tout à coup, il y a des balles qui arrivaient sur le court. Hein. Des choses comme ça, quoi. C'est très... parce qu'il y avait une milice qui affrontait une autre et qu'il y a un mec qui tirait. Parfois, c'est pas des. Ça peut arriver pendant un match de foot, par exemple. Il y a un truc qu'ont les Irakiens, c'est ce qu'ils font, c'est les Américains appellent ça celebratory gunfire. C'est-à-dire, il y a un but de marqué, alors les mecs, ils prennent leur calache et ils tirent en l'air. Sauf que parfois, ils tirent comme ça. Et il y a un mec dans le quartier d'à côté, il y a eu des morts comme ça. Un mec qui prend la balle avec l'inertie et voilà. Ça, c'est des trucs à l'irakienne, des réjouissances à l'irakienne. Et voilà. On couvre en gros. Alors, donc parfois, on passe plusieurs semaines dans ces circonstances-là, sans se laver, avec des conditions de nourriture très problématiques, des cas de. On peut être malade, voilà. Donc ça peut être très compliqué. Ça peut être donc bien choisir le binôme, en sachant que quand on part comme ça, c'est quand vous allez en Irak, parfois on me demande qu'est-ce que ça vous fait. Je dis, moi, j'ai l'impression d'aller sur une autre planète. C'est-à-dire, j'ai l'impression de changer de planète. C'est tellement indescriptible ce qui peut arriver dans ces pays et ce que vous y vivez, les quelques petites choses complètement absurdes dont je vous ai parlé, mais ça prend parfois des dimensions voilà. Et donc vous êtes dans un monde où les règles ne sont plus les mêmes, où la temporalité n'est plus la même. Quand vous êtes avec des militaires, vous avez le temps militaire. Donc, le temps militaire, c'est quelque chose de particulier. Et quand vous avez le temps arabe plus le temps militaire, ça donne des choses parfois très compliquées, où vous attendez 2 jours et vous ne savez pas pourquoi, il n'y a rien qui... visiblement, il devait se passer quelque chose et puis il ne se passe plus rien. Et puis là, en 10 minutes, tout à coup, c'est le chaos et vous avez vos images et vous avez un reportage de dingue. Voilà. Ou alors, je me souviens d'une fois où le chef de l'unité me disait on va aller... We're just gonna go down the road. There's a electric plug that needs to be fixed. You don't have to come with us. Bon, si on n'a rien à faire, on va les accompagner, etc. Il y a des moments très très chiants comme ça où on fait rien, on passe des journées et on accompagne les mecs et paf, embuscade. Juste au moment du poteau électrique, il y a un blessé. Voilà quoi. Et ça, évidemment, ça fait des images. Voilà, c'était une petite embuscade, mais on a eu des images comme ça, et parce qu'évidemment, l'idée c'est de dire on va ramener des images d'action. Enfin, en général, on n'y va pas pour s'il se passe rien, c'est toujours un peu problématique. Donc, on va pas rechercher parce que on va pas fabriquer des fausses images, on va pas rechercher spécialement le contact on cherche à raconter une histoire vraie, donc on cherche au maximum à accompagner les troupes dans n'importe quelle circonstance. C'est ça la clé de... Et puis, bon, parfois, il faut laisser les événements et laisser ces fameux temps dont je vous parle, temps musulman, on dira, Inch'Allah, fameux, ah, ça se passe pas aujourd'hui, ah, Inch'Allah, Inch'Allah. Et le temps militaire, qu'il est, alors par contre, le temps, c'est Zoulou, zéro, tu sais même pas quelle heure il est, parce que, tu sais, ah oui, Zoulou, c'est le temps, voilà. Donc, tu mets du temps à t'adapter, tu as déjà le décalage horaire et tu as en plus un temps militaire, donc avec des impératifs dans chaque... voilà. Donc ça, ces conflits-là, je dirais, c'est la partie... Vous êtes avec une unité. Parfois, vous n'avez pas... vous pouvez être avec des forces beaucoup plus... comment dire... des guérillas, des groupes rebelles, des choses qui sont... militarisé, mais c'est plutôt, on est plutôt dans la configuration gang avec des armes au milieu d'un conflit. Alors là, vous sympathisez avec les mecs. Alors c'était vrai pour l'époque Nicaragua, les Sandinistes au Salvador. C'était cette époque-là. Le journaliste était Les rebelles qui accueillaient le journaliste n'étaient pas naïfs, ils savaient qu'ils allaient mettre la lumière sur leur cause. Bon, avec les conflits modernes, le journaliste est devenu progressivement un objet de rançon, donc l'otage, quoi, donc ce qui a été. Plus récemment encore, une cible. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça devient. Il y a des zones de guerre où il est quasiment impossible de pénétrer. Sur l'histoire de la Syrie, donc pour faire un aparté là-dessus, à partir de 2012, quand il y a commencé à avoir des journalistes qui ont été enlevés, et quand l'État islamique justement a gagné du terrain, y compris sur les autres groupes rebelles, on a cessé d'envoyer des gens couvrir le camp rebelle. C'était un camp au départ qui était extrêmement accueillant, puisqu'ils voulaient montrer qu'ils se battaient contre Assad et qu'ils allaient faire la révolution, et voilà. Donc on a eu énormément d'accès sur la période mars 2011, début de la guerre en Syrie, et jusqu'à peu près à la fin de l'année 2012. Ensuite, donc, un certain nombre de nos confrères ont été donc kidnappés. Je pense en particulier à Didier François, Édouard Elias, ou Nicolas Hénin, qui ont été donc kidnappés. Il y a eu d'autres photographes espagnols, il y a eu des Américains, etc. On a arrêté. Donc, couvrir la Syrie, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, forcément, aller du côté gouvernemental. Alors, côté gouvernemental, c'est très contrôlé, mais on peut faire du bon journalisme côté gouvernemental, comme on pouvait faire du bon journalisme côté rebelle, où c'était aussi très contrôlé. C'est-à-dire que les mecs qui sont là, ils t'escortent. S'ils n'ont pas envie que tu photographies un truc, ils te le disent. Donc, et il n'y a pas de liberté absolue pour le photographe de photographier ce qu'il veut, et pour le journaliste d'aller où il veut. Donc, c'est extrêmement contraignant. On est dans des circonstances où, pour aller d'un point A à un point B, c'est compliqué. Il y a des checkpoints. Les checkpoints, par exemple, pour vous donner une idée, j'ai couvert la guerre en Syrie. Sur les 4 dernières années, j'ai fait 8 reportages en Syrie. Donc, je suis arrivé à des moments. J'ai fait la reconquête de Palmyre. J'ai fait donc le siège d'Alep, la chute d'Alep Est. J'ai fait la Ruta aussi l'année dernière, il y a un an exactement, la chute de la Ruta. Donc dans chacune de ces phases, c'est aujourd'hui si on va en Syrie, je dirais que par rapport à ces périodes 2014-2015, il y a environ les 2/3 des checkpoints qui ont disparu. C'est-à-dire qu'on est dans une phase où la guerre est au ralenti. Il ne reste plus que la province d'Idlib au nord-ouest, qui est encore tenue par les rebelles. L'État islamique a été vaincu. Bon, il a encore une présence résiduelle dans ce qu'on appelle Badia Shamia, qui est le désert de l'est, près de la frontière irakienne, où il y a encore une présence de l'État islamique, sous forme de guérilla, mais il n'a plus de contrôle territorial. Les rebelles, en revanche, du front ex-front al-Nusra, qui aujourd'hui s'appelle Ayat Tahrir al-Sham, contrôle donc la province d'Idlib avec d'autres groupes. Il y a environ 30 000 djihadistes, groupes djihadistes qui sont dans cette zone-là, avec à peu près 3 millions d'habitants. Donc le cas n'est pas réglé, hein. Plus les Kurdes au nord et les Turcs qui occupent certaines parties. Dommage que je n'ai pas de carte, mais bon, j'imagine que vous voyez à peu près la carte de la Syrie. Donc aujourd'hui, complexe de couvrir la Syrie. Donc, beaucoup de mes confrères, eux, l'ont couverte chez les Kurdes, qui était aussi une option très intéressante, puisque les Kurdes donc, allaient au combat contre l'État islamique, mais aussi parfois contre des groupes rebelles. Moi, j'ai eu l'occasion, avec les forces gouvernementales à Alep, de sympathiser, passer un peu de temps avec les Kurdes du YPG, qui contrôlaient un quartier qui s'appelle à Alep Sheikh Maksoud, et qui est le quartier kurde. Et donc les Kurdes, au début de la guerre, étaient avec les rebelles, et rapidement, quand les rebelles se sont devenus djihadistes, les Kurdes, évidemment, qui sont laïcs et communistes, ont fait scission et ont rejoint le camp gouvernemental, qu'ils ont aidé pour reconquérir la ville. J'ai passé un peu de temps avec eux. C'était aussi très intéressant comme approche, puisque on n'est pas du tout sur le même fonctionnement. Donc on arrive à couvrir, on arrive à aller, mais comme je vous le disais, la question des checkpoints pouvait être très problématique. À une époque, je pense à septembre 2016, sur la route d'Alep, je vous passe les pénuries d'essence, les trucs où tout à coup il y a une offensive de Daesh et qui a repris des puits de pétrole et il n'y a plus d'essence, sauf pour l'armée. Donc toi, tu es là à te dire, merde, est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'à Alep, sachant que c'est 10 heures de voyage, sur une route très compliquée. En gros, la route pour aller à Alep, c'était une bande de 20 km qui était contrôlée par l'armée syrienne. À droite, vous aviez Al-Qaïda, donc Nusra, et à gauche, l'État islamique. Donc fallait bien faire gaffe de rester sur la route. C'était des périodes donc avec des checkpoints. Et je ne comprenais pas, ça c'est vraiment un truc qui m'avait marqué, je ne comprenais pas pourquoi quand les checkpoints étaient les petits checkpoints où il y avait un... Alors, le checkpoint, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les guerres, c'est toujours un endroit compliqué où le militaire déteste être pris en photo. On ne sait pas pourquoi, il ne faut pas prendre les militaires pour être sur un checkpoint. Le rapport du militaire et de la photo est très intéressant parce que à d'autres moments, à d'autres circonstances, le militaire est très content qu'on le prenne en photo. Et parfois, il est très content même quand il a fait des exactions. Il va vous montrer les mecs qu'il a butés et il va être très fier de... il va chercher parfois à dissimuler son visage par peur d'on ne sait quoi, ou au contraire, il va se montrer. Donc, il y a un truc, il y aurait peut-être une thèse à écrire sur le militaire et la photographie. C'est toute armée confondue. Militaire, il y a deux choses. Il y a des constantes aussi. Dès qu'il y a un pont, il y a un checkpoint. Ça, c'est un truc, contrôle le pont. Ça, c'est vraiment un truc de militaire. N'importe quelle armée, il y a un pont, ils installent un truc et ils contrôlent. Voilà. C'est vrai qu'il y a un pont, il y a deux rives, etc. Mais ça, c'est vraiment les... Voilà. Et le checkpoint. Et là, donc, c'est septembre 2016, on est donc en route vers Alep. Et il y a... donc, deux fois de suite, on tombe sur des checkpoints qui sont des petits checkpoints où le type qui est... C'est pas des officiers qui contrôlent, c'est des sous-offs. Et là, les mecs, ils regardent nos passeports, ils regardent nos tronches. Alors, on est avec un type du gouvernement qui est là, qui a des autorisations, donc il faut montrer les autorisations. C'est une feuille dorée avec un aigle dessus, il y a un mec qui a signé, enfin bref, on voit nos noms, voilà. Donc c'est ça, c'est l'autorisation. Et toujours la même, toujours le même, même format, et nos passeports. Et là, j'entends Sahafi, donc journaliste, et puis Daesh. Pourquoi il parle de Daesh, et on perd une demi-heure au premier checkpoint, les mecs nous regardent, machin, finalement il accepte de nous laisser partir, on sait pas très bien pourquoi, ni quand, ni comment, pourquoi ça se fait, donc on repart, deuxième checkpoint, pareil, on perd encore une demi-heure, et là je demande et j'entends encore Sahafi Daesh, qu'est-ce que c'est, ou Sahafi Faransi, et ensuite après j'attends Daesh, donc le journaliste français, et là... Je vais demander à Roussam, mon fixeur, je dis, mais pourquoi ils disent Sahafi Faransi, pourquoi ils disent Daesh? Et il me dit, mais Régis, tu sais, les Français qui connaissent, c'est que les mecs de Daesh, c'est les volontaires français de Daesh. Bien que tu te rends compte que eux, la vision de la France qu'ils ont, c'est ça. Voilà. Donc, tu vois, donc t'es pas forcément welcome en étant français, hein. Pas qu'avec les Américains parce que tu participes pas à la guerre en Irak. Là, t'es avec l'armée syrienne, les mecs, d'abord, t'es un ennemi, ton pays est ennemi de la Syrie. Moi, j'ai des généraux comme ça qui m'ont dit, je me souviens d'un général à Alep, il me dit, mais je vous arrête, vous fatiguez pas à me demander comment on a reconquis, vous avez qu'à demander à votre ministre de la Défense, ils ont des drones. Il voit tout ce qu'on fait. Vous lui demandez, voilà, ne me posez pas la question. Mec, mais vraiment hostile, quoi. Et bon, il dit, voilà, je suis quand même là pour raconter une histoire, etc. Donc voilà, c'est des... Alors, ça, c'est aussi une autre caractéristique qui complique les choses sur le terrain. C'est cette permanence de vous êtes français, vous êtes perçu comme le représentant du gouvernement français. Alors... C'est très dommageable quand, dans des circonstances comme la présence avec des troupes américaines ou avec des troupes syriennes, où le gouvernement français n'est pas sur la position des gens avec qui vous accueillent, ou est franchement hostile, puisque la France a soutenu la rébellion en Syrie, y compris lui a livré des armes, etc. Et ça, les mecs le savent, hein, ça, ils te le font comprendre. Donc c'est toujours problématique. On a souvent à expliquer que on est là, on est journaliste, on n'est pas là pour donner notre opinion aussi, ou on n'est pas des diplomates, qu'on n'est pas des gens qui c'est souvent dit à François Hollande. Oui, mais je vous le connais pas, j'ai pas son portable, j'ai jamais vu, j'ai jamais rencontré. C'est vrai, en plus, j'ai jamais rencontré Hollande. Il est peut-être sympathique, mais moi, je peux pas lui dire, quoi. Et le mec, voilà, dit à François Hollande. J'ai eu ça très souvent. Ou dit à Jacques Chirac, ou voilà. Alors, ce qui était marrant avec en Irak, en revanche, c'est que Jacques Chirac, ayant refusé de faire la guerre avec les Américains, était extrêmement populaire auprès des gamins qu'on croisait. Alors, il y avait deux personnages fantastiques en Irak, c'était Zidane et Chirac. Voilà. Zidane, moi, m'a sauvé d'une situation très compliquée. J'aurais peut-être un jour l'occasion de lui dire. Je n'ai jamais rencontré non plus. Mais j'avais fait... Parfois, on commet des erreurs. C'était très compliqué. Le gouvernement irakien avait décidé... À un moment, c'était simple d'avoir des visas pour aller en Irak. On arrivait à l'aéroport, on faisait notre visa pour 2 $ dans un petit bureau et on passait, impeccable. Et puis tout à coup, on arrive et là, il faut... donc c'est plus 2 $, c'est 50. Il faut demander, on est emmerdé, etc. Donc on a des visas provisoires, redémarches, etc. Et on apprend qu'il faut faire ce qu'on appelle un exit visa. C'est-à-dire pour pouvoir quitter le pays, il faut faire un exit visa avec... un test du sida. Donc, il faut qu'on aille dans un hôpital. Vous imaginez un hôpital irakien, qui reçoit pas loin de 80 blessés par IED par nuit, quoi. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y a une explosion dans Bagdad toutes les demi-heures, quoi. Toutes les demi-heures, il y a un car-bombe ou un marché où il y a un massacre. Et donc, c'est dans ce genre d'hôpital qu'il va falloir qu'on aille se faire faire un test du sida. Et on se dit, OK, on va le faire, mais... donc, on prend tous les risques pour aller dans cet hôpital. On s'est dit, avec mon photographe, avec Chris, on s'est regardé, on s'est dit, si l'aiguille n'est pas dans le truc, on ne le fait pas, quoi. On ne fait pas, parce que c'est le genre de truc, tu vas faire un test du sida et tu ressors avec le sida, quoi. On arrive, les aiguilles étaient impeccables. Et là, le type était c'était un espèce de moustachu avec un costume, tu sais, des costumes qui puent la clope, là, tu vois, les espèces de loden, machin, enfin, de trucs en laine, quoi. Très sympathique, il faisait ça à merveille. Donc, il nous a fait le test. Et bon, voilà, après, on a fait le test, on a eu notre exit visa. Vous imaginez la complication de ce genre de choses. Et tout à coup, vous vous retrouvez. Et alors, voilà. Donc, il me manque encore un tampon pour faire valider le visa, le truc. Et il faut que j'aille à ce qu'on appelle le MOI, c'est le Ministry of Interior, qui est censé être le ministère de l'Intérieur. Mais on arrive, il y a des portraits d'un personnage sympathique qui s'appelle Moqtada al-Sadr, qui est un des chefs chiites extrémistes, qui n'est même pas dans le gouvernement, mais on ne sait pas pourquoi, on est au ministère des Affaires étrangères, pas des Affaires étrangères, du ministère de l'Intérieur, et il y a des portraits de Moqtada al-Sadr. Bon, déjà, ambiance, quoi, tu vois, les miliciens chiites, et en plus, les mecs disent « journaliste CIA ». Voilà, ça, c'est quand ils te voient, ils voient ton truc, CIA, bon. Donc, on arrive, on passe, là, des checkpoints de l'armée du Mahdi. Donc les mecs check nos trucs, regardent les machins, bon, on rentre et on se retrouve dans un bureau, c'est une pièce un peu comme ici d'ailleurs, avec des murs jaunes et un bureau comme ça, et un type enturbanné avec ses enfants qui jouent à côté, et un type enturbanné qui est le mec qui va... moi j'habite aux États-Unis à l'époque, correspondant aux US, mais je vais en Irak pour couvrir la guerre, puisque c'est un deal que j'avais fait avec mon patron de l'époque. Je lui ai dit, je ne peux pas continuer à couvrir la guerre, à vivre aux États-Unis, à raconter les États-Unis sans aller en Irak. C'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Comme ça que je suis. Voilà. Et donc j'y vais, je vais passer tous les 6 mois, quasiment un mois en Irak, pour engranger les sujets. Et là. Donc j'ai un visa américain, parce que un visa américain dans mon passeport français. Et là, le mec check, puis il voit le visa, il dit « Abriki, Abriki !» Le truc commence à... et là, il y a une femme entièrement voilée, donc voilée mais avec le visage apparent, qui me dit dans un français impeccable, sans accent, elle me dit mais vous êtes complètement fou de venir ici, vous ne pouviez pas envoyer votre fixeur, c'est complètement dingue. Vous allez vraiment avoir des emmerdes. Enfin, elle me dit ça, mais j'ai dit, mais vous avez appris le français? Ah, mais j'ai étudié à l'université de Bagdad, etc., etc. Malheureusement, l'université est fermée, etc., etc. Enfin, des espèces de moments hyper touchants comme ça, où une femme plutôt libérée, mais qui est obligée, enfin, on sent qu'elle est contrainte par la situation et l'espèce de régression considérable que ces sociétés connaissent, ont connu ces dernières années. Voilà, et le type est là, Abriki, Abriki, puis il me regarde, il me menace, etc. Je dis non, Farenzi, Farenzi, je lui monte le truc, et puis là, je sais pas pourquoi, je dis Zidane. Et j'ai dit Farenzi, Zidane. Ah, Zidane, ah, Zidane. Et voilà. Et le mec, tout à coup, voilà, on a dit Zidane, Chirac, machin, on a commencé à être. Voilà, mais c'est Zidane qui a tout à coup ouvert un large sourire à ce monsieur. Qui n'était plus du tout menaçant après, qui adorait le football, parce que c'est ça aussi ce qu'on comprend pas, c'est que le football, c'est un truc, ils sont complètement malades de football. Alors ils ont pas des équipes dingues au niveau, mais par exemple quand l'Irak gagne, bat le Sultanat d'Oman ou un truc comme ça, c'est comme s'ils gagnaient la Coupe du Monde. La Syrie, c'est pareil, il y a eu un cas pendant la bataille de Deir ez-Zor, qui était en 2017, grosse bataille de Deir ez-Zor, l'armée syrienne a réussi à libérer, à faire la jonction avec Deir ez-Zor, qui était assiégée depuis 3 ans par l'État islamique. Donc la ville est libérée, et ce soir-là, la Syrie bat l'Iran. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un moment où les combats avaient complètement arrêté, enfin, à part pour Deir ez-Zor, les combats avaient complètement arrêté, chez les rebelles comme chez le gouvernement, parce que là, pour une fois, pendant la guerre, il n'y avait pas l'équipe nationale, il y avait 2 mecs qui étaient dans la rébellion, qui étaient originaires de Homs, et donc ils ne voulaient pas jouer avec les autres qu'ils considéraient comme des pro-Assad. Donc il y avait. Et là, miraculeusement, ils ont décidé, c'est une équipe qui ne joue qu'à l'extérieur, donc ils ne jouent pas en Syrie, et là ils avaient décidé de faire fi de leurs différences et de rejouer comme une équipe nationale. Et bien tout le monde, dans les zones rebelles comme dans les zones gouvernementales, a regardé le match, et pour une fois il y a eu une espèce de communion des Syriens, quelle que soit leur appartenance, sur ce match de foot où ils avaient, alors je ne sais même plus s'ils avaient perdu ou non, ils avaient gagné, ou ils ont peut-être fait 1-1, mais face à l'Iran, c'était juste génial, quoi. Ils étaient enchantés. Donc ça, le foot est un élément extrêmement important. Je crois que c'est un des, moi, plusieurs fois, je me souviens d'une autre fois. Alors on m'avait envoyé pour faire un sujet à Vukovar, donc en Croatie, pour les 10 ans de la guerre serbo-croate, voilà, que je n'ai pas couverte, mais bon, on m'avait dit voilà, va au SIEC, regardez qu'est-ce qui, bon, j'avais fait un sujet, une sorte d'enquête, j'ai raconté, Mais là, j'avais pas de photographe. Et donc, je me suis retrouvé à un moment dans la Pampa, donc chez les Croates. Je me suis fait arrêter par une milice. Alors, c'est jamais bon quand vous voyez un mec avec un fut camouflé, un autre truc. Quand la milice n'est pas très. Pas d'uniforme vraiment, c'est pas bon du tout, quoi. Ce genre de truc, c'est vous risquez de vous faire dépouiller. C'est mieux d'avoir des mecs en uniforme. Alors, trop de bérets avec des couleurs différentes, c'est pas bon non plus. Mais bon, voilà, il y a des petits trucs comme ça. Mais bon, et là, je me souviens, les mecs m'arrêtent et je vois, il y avait un stade de foot à côté. Et miraculeusement, je me souviens du nom du buteur croate. Alors, avec les Croates, impossible de parler à quoi que ce soit. Hein. Je me souviens du nom du buteur croate de la demi-finale, vous savez, où Lilian Thuram a marqué ses deux buts, la fameuse demi-finale de 98, France-Croatie. Et la France a gagné 2-1. Et les Croates avaient ouvert le score, et je me souvenais du buteur. Et je sors le nom du buteur, je dis France, ah! Et alors tout à coup, voilà, pareil, on parle foot, enfin, on balance les noms de l'équipe de France. Et je me souvenais, les mecs étaient hyper heureux que je me souvienne de leur buteur, qui est devenu un héros d'ailleurs. Pendant la finale France-Croatie la dernière fois, ils en ont parlé de ce gars. Je crois qu'il est maintenant, il entraîne une équipe ou un truc comme ça, mais c'est quelqu'un de connu en Croatie, quoi. Voilà. Et donc voilà, donc le foot, c'est quelque chose c'est quelque chose d'important au niveau journalistique. Vous suivez le foot, tout de suite, tout de suite, il y a un point d'entrée. Alors, sur la question du langage, ça, c'est une chose problématique. Il faut savoir, par exemple, que quand on fait du reportage, vous avez un niveau d'anglais ou un niveau d'espagnol qui est correct. Vous n'allez pas avoir besoin d'utiliser votre niveau d'anglais très correct. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir, avec votre interlocuteur, vous allez parler un sabir, un mélange d'anglais avec des mots d'arabe, voilà. Et en fait, vous établissez une sorte de modus vivendi avec des notions que vous connaissez, et vous arrivez à communiquer comme ça. Donc, je crois qu'il y a le terme globish, qui est un anglais global, quoi, globish. Voilà. Et avec ça, en fait. Et de l'espagnol aussi, ça marche très très bien. Les gens que vous rencontrez, évidemment, ont des rudiments d'anglais. Et donc, voilà, donc vous arrivez à établir une sorte d'équilibre et à vous faire comprendre, au moins pour l'essentiel. Alors après, quand il s'agit de conduire une interview, c'est vrai que voilà, c'est mieux d'avoir un traducteur. Parfois, c'est mieux. Moi, j'ai fait des sujets au Mexique avec un fixeur, traducteur, qui ne parlait qu'espagnol. Mais j'ai préféré, moi je parle espagnol, j'ai préféré le prendre lui parce qu'il avait une connaissance énorme du terrain. Et c'était très très dangereux. Le Mexique, c'est vraiment j'ai failli mourir moi au Mexique. J'ai failli me faire tuer. Et grâce à ce fixeur qui parlait qu'espagnol, mais bon, ça suffit. Voilà, parfois, quand on a le choix entre un mec qui connaît très bien le terrain et un type qui va vous faire qui connaît mal le terrain, mais qui va vous faire une bonne traduction en français, il vaut mieux prendre le mec qui parle qu'espagnol. Donc en fait, voilà, donc parfois vous passez complètement de la traduction, mais parce que c'est pas possible, parce que voilà, vous manquez de temps, ou les circonstances font que vous n'avez pas le temps d'interviewer. Donc ça c'est toujours, ça peut être frustrant, mais bon, voilà. Où j'en étais, oui. Le problème, donc, ces difficultés dont je vous ai parlé, difficulté d'accéder au front, difficulté d'accéder aussi à certaines zones, les dangers font que de moins en moins de médias envoient des reporters. Alors, la solution pour eux, c'est de se baser sur des types qui sont sur place. Des types extraordinaires, hein, qui au départ étaient fixeurs, puis deviennent reporters. Au départ, ils étaient chauffeurs en Irak, et des mecs comme ça sont devenus photographes, des très bons photographes. L'autre jour, j'ai eu une rencontre très intéressante avec deux jeunes photographes d'AFP, qui étaient des Syriens dans la Routa l'année dernière, et on a échangé nos points de vue, puisque moi j'étais donc côté Assad, Mais avec des, j'avais fait mon sujet sur les convois qui quittaient la Routa et qui partaient à Idlib. Donc j'ai parlé, avec, j'ai essentiellement dans mon papier sur la Routa parlé avec des rebelles et donc qui avaient accepté de quitter leur ville. Et ces jeunes reporters, donc qui sont des gamins des rues, qui ont juste pris un appareil photo et qui ensuite, comme il n'y avait personne pour documenter ce qui se passait, l'AFP voilà, et a permis qu'ils se retrouvent en France aujourd'hui. Et j'ai eu cette discussion avec eux. Voilà, donc c'était très intéressant parce que ça permet, moi ça m'a permis de voir, voilà, qu'est-ce qui se passait dans le camp d'en face, de s'apercevoir que les types qu'on fréquente, que ce soit les soldats syriens ou les rebelles, souvent ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, à part le PIDS, Bachar al-Assad, certains types se baladent avec des bandeaux, etc., on dirait des djihadistes, enfin, plus la guerre avance et plus elle se pourrit comme ça, plus elle devient pourrie, plus elle s'enlise, plus les combattants se ressemblent. C'est assez étonnant. Ils utilisent les mêmes... ils ont des langages, bon, différents, mais ils ont souvent des tenues de plus en plus proches, de plus en plus dépareillées, de plus en plus... Et l'armée syrienne, c'est devenu une armée de contre-insurrection. C'est une armée... c'est plus du tout l'armée voilà, de l'époque d'Hafez avec... des bataillons de chars, de l'artillerie, voilà. C'est aujourd'hui des corps très mobiles, très adaptés, très spécialisés D'abord, la moitié de l'armée syrienne a été tuée dans ce conflit. Donc voilà, sur les morts du conflit syrien, quand on est à peu près à 400 000, oui, à peu près 150 000 qui sont des soldats de l'armée syrienne, de l'armée régulière. Il y a à peu près 80 000 rebelles. Le reste, c'est des civils. Sur les quelques 400 000 morts qu'a fait cette guerre. Donc voilà, et donc, moi, je voulais vraiment insister là-dessus, sur le fait que, en dépit des périls qui peuvent exister, en dépit des difficultés à pénétrer sur les zones de terrain, quand on a l'opportunité d'y aller, il faut y aller. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a trop tendance, et je reviens un petit peu par rapport à ce que je disais au début, à voir la guerre comme un... En fait, il y a des mecs qui font des guerres sur Twitter, qui se balancent des insultes, et en fait, la connexion avec le terrain, c'est recycler de l'info qui vient du terrain peut-être, mais à un moment, mais qui progressivement est de plus en plus déconnecté. Et à l'heure des fake news, où les gens ont besoin de repères, il est absolument essentiel d'avoir des gens neutres, entre guillemets, qui ne sont pas connectés à un côté ou à un autre du conflit et qui vont dans ces zones-là pour ramener une part de la réalité. Alors, on ne peut pas connaître toute la réalité, on ne montre pas tout, on ne voit pas tout, mais comme je dis souvent, moi, on a quand même plus l'occasion d'en connaître un petit peu plus qu'en n'y allant pas. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, y a beaucoup de gens qui ne font pas cet effort-là et qui parlent de la Syrie. Moi, il y a un certain nombre de spécialistes, je ne vais pas les nommer, mais de la Syrie qui n'ont jamais foutu les pieds en Syrie. C'est hallucinant. J'en nommais une, Marie Pelletier, si vous voyez cette personne qui intervient régulièrement. Alors elle dit non, je ne suis jamais allé en Syrie, mais je m'intéresse aux mots employés sur la Syrie, donc les mots MOTS, c'est-à-dire je m'intéresse à la narration du conflit. Oui, mais bon, c'est quand même un peu bizarre de s'intéresser à la narration d'un conflit qui concerne la Syrie sans jamais avoir foutu les pieds en Syrie. Voilà. Après, il y a d'autres spécialistes qui se sont fait des lettres de noblesse parce que, ils avaient une petite expérience avant la guerre, ils y étaient allés, etc. Mais la Syrie avant la guerre, la Syrie d'aujourd'hui, c'est deux mondes complètement différents, c'est aussi deux planètes. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'intox qui ont été relayés sur la Syrie. Alors, c'est une guerre abominable. Hein. Moi, je pense que la guerre la plus... l'Irak, c'est dur aussi, mais la désagrégation de la Syrie, moi, telle que j'ai vu ces villes tomber en poussière. Quoi. C'était très impressionnant. Le centre-ville de Homs, par exemple, vous avez... j'ai fait une vidéo la dernière fois. J'ai 3 minutes de vidéo on passe au centre-ville, on est en voiture, hein, donc on est à peu près à 60 km/h, il n'y a pas de feu dans cet endroit, il n'y a rien. On est à 60 km/h et 3 minutes, et je filme, et c'est à peu près la distance, le Valois-Perret-Boulogne, si vous voulez. Et tout, mais tout est détruit. C'est-à-dire, vous regardez à droite, vous regardez à gauche, vous n'avez pas un immeuble sans qu'il y ait 10 cm sans un impact de balle. C'est le centre-ville de Homs, c'est très impressionnant parce que vous, Alep aussi, hein, Alep, des résorts, même la ville de Palmyre ou la Ruta. La Ruta, c'est, j'ai un ami tout à l'heure là, qui était à Douma, qui m'a envoyé des photos de Douma en m'expliquant qu'il y a. Il y a vraiment un problème économique. Les villes n'arrivent pas à se redresser. La situation est terrible en Syrie en ce moment. Il y a eu beaucoup de pénuries, notamment d'essence, d'électricité, d'eau, même d'approvisionnement en eau pendant l'hiver. L'hiver a été très dur. Bon, là, on arrive vers les beaux jours, donc tant mieux. Mais la situation, c'est la misère. Les Syriens aujourd'hui, le salaire moyen d'un Syrien, c'est 2 dollars par jour. Vous avez certains endroits, il y a 80% de chômage. Donc c'est une situation très dure. Il n'y a plus la guerre, mais économiquement, la Syrie reste complètement étranglée puisqu'elle est sous l'objet de sanctions de la part des pays occidentaux. Et à part la Russie et la Chine qui l'aident, pas grand monde. Alors les pays du Golfe vont revenir progressivement puisqu'il y a une forme de normalisation. L'année dernière... Les Émirats ont réouvert leur ambassade, donc il y a eu des signes comme ça qui montrent on parle de remettre la Syrie dans la Ligue arabe. Donc la renaissance va avoir lieu. Moi, j'ai fait un reportage sur Alep un an après pour voir où en était la renaissance. Alep étant peut-être la ville syrienne la plus dynamique, hein, c'est une ville de commerce, c'est une ville, c'est le poumon économique, le poumon industriel du Moyen-Orient, avec la proximité avec la Turquie. Donc Alep, c'était intéressant. Bon, il y a un an à Alep, il y avait encore un magasin sur 10 dans le souk qui était ouvert. Et essentiellement des magasins de téléphonie et des petits épiciers, mais sinon, l'industrie n'était pas encore là, la ville déblayait ses ruines. Mais et dans certains coins comme Homs, il n'y a rien à changer. Donc ça, c'est des circonstances. Le conflit est fini dans 80% de la Syrie. Ces 80% restent peinent à se. Face à ça, il y a eu très peu d'accès au terrain. Des gens comme moi ou d'autres, hein, je suis pas le seul hein, à avoir vécu ça, Franck Genozo de France 2, il y a eu des gens comme ça, on s'est fait mais insulter tout simplement parce qu'on allait, on couvrait la Syrie en ayant des précautions de langage, c'était pas du tout des papiers ou des reportages apologétiques vis-à-vis de Bachar al-Assad, mais c'était assez effrayant de voir à quel point l'idéologie, ou en tout cas une certaine vision de la Syrie dominante dans la presse, dans les médias et au gouvernement, avait le dessus et on ne pouvait pas contester. Par exemple, on a eu énormément, je vous donne un seul exemple, on a eu énormément de mal à admettre que la rébellion a été assez rapidement gangrénée par les islamistes. Donc on continue à croire à la fiction d'une révolution syrienne, comme je vous disais au début, démocratique, avec tout à coup des gens qui allaient apporter le bonheur et la civilisation et chasser à jamais le clan Assad du pouvoir. C'était ça, cette vision-là. Et certains commentateurs, experts, etc., se sont accrochés à cette vision pour ne présenter que ça. Et quand nous, on allait en Syrie, on disait, mais attendez, les rebelles, d'abord... ce qu'on en sait, ce qu'on en voit, ils sont barbus. Et moi, ce qui était très intéressant en rencontrant ces photographes d'AFP et en rencontrant aussi les rebelles au moment de la chute de la Ruta, c'est que je me suis rendu compte que les mômes avec qui je discutais, ils appartenaient à un groupe qui s'appelait Felak al-Rahman, qui veut dire la Légion du Miséricordieux. Alors, bon, Felak al-Rahman, c'est pas un groupe djihadiste, c'est un groupe plutôt nationaliste syrien, d'opposition, anti-gouvernement, mais ce ne sont pas des... Et ces mecs-là, j'ai passé 2 heures avec eux, me racontaient que leur horreur, c'était Al-Qaïda, qui était chez eux, et Jaych al-Islam, qui était un autre groupe. Ils ne pouvaient pas se saquer. Ils disaient que c'était des véritables salopards. Et les mecs, les jeunes photographes m'ont dit, mais Jaych al-Islam, pour nous, c'était pire que Bachar. Au sein même des rebelles. Vous voyez ? Donc ça, cette vision-là, elle échappe complètement à ceux qui considèrent qu'il y a un camp rebelle, que oui, il y a quelques barbus un peu dangereux, mais que finalement, le reste, c'est des... Voilà. Et quand vous discutez avec les gens, ben, ils ne vous disent pas du tout la même chose. Et j'ai assisté à des scènes... là aussi, j'ai ramené des vidéos qui sont intéressantes de ce point de vue. C'est-à-dire, j'ai pu filmer ça, où des soldats syriens et des officiers venaient, très pédagogues, expliquer aux jeunes, ne partez pas à Idlib. Les jeunes allaient prendre le car, ils avaient leur kalachnikov, etc. Avec leurs enfants, ils étaient, voilà, déposez les armes, revenez avec nous. Et le principal point qui faisait que ces jeunes refusaient, c'est la perspective de faire leur service militaire. C'était l'idée d'être incorporé dans l'armée syrienne pour faire un service militaire. Ça, ils ne voulaient pas. Voilà. Mais globalement, le reste, alors c'était passionnant parce qu'il y avait le soldat qui expliquait, qui disait... Alors lui, il avait des grands yeux bleus, un accent alaouite. Je parle pas arabe, enfin, j'arrive à m'exprimer, mais je veux dire, j'ai pas... Mais par contre, je vois les différences d'accent entre les accents sunnites et les accents alaouites. C'est très caractéristique. C'est plutôt par zone que par confession. Hein. Mais les alaouites sont plutôt la caste régnante. Même si, encore une fois, c'est encore, quand on dit les alaouites ici, on a l'impression que c'est des nababs qui sont... c'est le clan Assad et qu'ils ont mis sous coupe réglée le pays. La majorité des alaouites, qui forment 10% de la population en Syrie, sont pauvres. Ça, ce n'est jamais expliqué. Ils ont une pauvreté. Il y a des quartiers alaouites pauvres à Damas. Ce n'est pas du tout des gens nantis. Les chrétiens sont beaucoup plus riches que les alaouites. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que dans leur perspective et vous recueillez la parole de gens qui sortent de 5 ans de siège, qui ont vu leur enclave tomber et qui décident de continuer le combat à Idlib. Cette parole-là, elle est intéressante, parce que confrontée avec celle de l'officier syrien, c'était quand même assez incroyable de voir ces deux mecs, ces groupes se parler et essayer de se convaincre, alors que 2 heures avant, ils se seraient tirés dessus. Et donc, quand vous allez sur le terrain et que vous assistez à des scènes comme ça, c'est très riche. Et je me souviens de l'officier syrien, c'était très émouvant, l'officier syrien dit mais revenez, alors, c'était le truc, revenez. Et les jeunes étaient très contents de parler. Ils n'avaient pas vu d'autres visages. Ils étaient très contents de nous voir, nous, parce qu'on était les premiers visages qui voyaient hors de leur enclave dans laquelle ils sont nés, de l'est de Damas. Certains parlaient quelques mots d'anglais. C'était très... Et à un moment, l'officier syrien dit « Oui, mais la Syrie, c'est... l'église et la mosquée côte à côte, comme au Liban, même si c'est pas une répartition confessionnelle, la Syrie. C'est la même. Et là, il y a le petit jeune qui dit, monsieur, il n'y a plus ni mosquée, ni église. Voilà. Et effectivement, tu regardais le quartier, c'était Hiroshima, tu vois, derrière. Donc, effectivement, il n'y avait plus d'église. Mais j'ai trouvé cette remarque de ce jeune à cet officier qui essayait de le convaincre en disant, voilà, c'est ça la Syrie, mais il n'y a plus de mosquée, il n'y a plus d'église, il n'y a plus rien. C'est année zéro, quoi. Et là, c'est année zéro, la Syrie. Alors, c'est donc voilà. Donc, par rapport à la narration qui a été faite de ce conflit, moi, j'ai été absolument estomaqué de me rendre compte, par exemple, je donne d'autres exemples précis. Je suis arrivé à Alep au moment de la chute de l'enclave, de la dernière enclave. Il y avait 4 km² qui étaient tenus encore par les rebelles, dans lequel il y avait environ 20 à 30 000 personnes. C'était la dernière poche, c'est le quartier de Ramousset. Donc le quartier de Ramousset, il est juste au moment où on arrive sur Alep, en partant de Damas, on fait ces 10 heures de route, et on arrive et il y a ce quartier-là. Donc on est arrivé le 15 décembre, en fin d'après-midi, et on arrive, coup de bol, c'est le moment où le premier convoi de bus, c'est les fameux bus verts, va se constituer, rentrer dans le quartier et prendre... à peu près 500 personnes pour les amener à Idlib, donc toujours cette fameuse province, pour qu'ils évacuent. Donc c'est le premier. Donc je passe la journée devant ce quartier. Donc, le premier convoi part. Donc, on fait les photos, etc. On tombe vraiment à ce moment historique de la chute d'Alep-Est. Donc, on assiste à ça et on revient le soir à notre hôtel. Donc, les connexions décembre 2016. Bon, j'arrive à retrouver du Wi-Fi miraculeusement à un endroit de l'hôtel. Alors, c'était pratique parce que c'est un hôtel quand même qui était à 500 mètres d'une ligne de front. Donc, il faut faire très gaffe à ces grandes barres d'immeubles parce que, pour vous dire, on arrive le soir. Donc, après, je vous reviendrai sur ce que je voulais vous dire, mais je fais un petit aparté. On nous monte nos chambres. On monte au 15e étage. Et alors là, ce qui est très tentant, c'est de faire chambre avec vue sur la guerre. C'est-à-dire, vous avez la ligne de front. Alors... Je confonds, ça c'était en septembre, mais c'était le même hôtel. Mais en septembre, on arrive et il y avait encore les rebelles étaient encore là, quoi, vraiment à 500 mètres. Quoi. Et ce qui se passait, c'est que tout là, c'était ce qui était effrayant, septembre 2016, c'était la puissance des frappes aériennes russes et syriennes sur les lignes de front. Mais c'était l'avion arrivait à 10h du soir, ça se terminait à 2h du matin. Nous, on dormait dans le même lit avec mon photographe qui ronflait. Je me demandais ce qui était pire, si c'était ses ronflements ou les parce que lui dormait. Moi, j'arrivais pas à dormir. C'est le genre de truc, des explosions à te faire littéralement, c'est difficile à décrire comme sentiment, te faire te dresser d'un coup, voilà, à côté de ton lit. Tu commences à somnoler et puis t'as un truc, mais bon, et ça arrivait jusqu'à 2h du mat. Et ce que faisaient les rebelles dès que les Russes frappaient, ils balançaient chez nous ce qu'on appelle des canons de l'enfer, c'est-à-dire des missiles avec une bonbonne de gaz qui éventre pas mal d'immeubles et qui, évidemment, te touche et tombe dans la rue à côté de chez toi ou sur ton hôtel. Et cette nuit-là, bon, on a fini par s'endormir. Mon photographe, lui, dormait. Mais moi, j'ai fini par somnoler. Et le matin, donc c'était un grand hôtel quand même, hein. Le matin, je vais pour prendre l'ascenseur et je remarque qu'il y a un drap qui bouche le couloir un peu plus loin. Alors, pour vous dire, prudemment, on n'avait pas pris chambre avec vue sur la guerre, on avait pris de l'autre côté. Voilà. En se disant, si y a un truc qui se passe, si on va aller faire des photos, on peut toujours aller. Il y avait une chambre vide là, donc à côté, donc vous pouvez toujours y aller. Et là, je remarque ce drap. Qui est tendu, et je vais voir, et en fait, je me rends compte qu'il y a la moitié de l'étage qui a disparu pendant la nuit. Et on s'en est à peine rendu compte. On sait qu'il y a un truc qui a tapé sur l'hôtel, mais de s'apercevoir qu'il y a 3-4 chambres comme ça qui ont été pulvérisées, voilà. Et après, tu dis, ah ouais, ok, bon, voilà. Donc, c'est ce type d'hôtel. Là, le Wi-Fi, je reviens sur le Wi-Fi. Je récupère du Wi-Fi à côté du comptoir. Et en fait, c'est très bien de se mettre là parce que là, le problème de cet hôtel aussi, c'est qu'il y a des immenses panneaux en verre. Et quand il y a les fameux mecs qui balancent des trucs, si tu es assis dans le fauteuil à côté, tu te prends tout le truc de verre, tu vois. Donc, il vaut mieux toujours se mettre. Voilà, c'est des trucs. Bon, après, Et là, je récupère les infos. Évidemment, ça ne parle que d'Alep. Et je suis le seul journaliste français présent dans la ville. Donc, je balance des tweets. Avec des photos en disant voilà le début des. Et je regarde un communiqué du ministère des Affaires étrangères français qui dit Jean-Marc Ayrault a rencontré un mec de l'ONU, ils ont convenu une nouvelle fois de demander aux Russes d'arrêter ces frappes aériennes incessantes dont est toujours victime la ville. Et on rapporte d'ailleurs des cas où l'armée syrienne a commencé à mettre le feu à des maisons des rebelles. Et là, je me dis, attends, je suis arrivé aujourd'hui, j'ai passé l'après-midi dans le quartier, j'ai pas vu un avion dans le ciel. Là, je parle pas de septembre, hein, on est en décembre. J'ai pas vu un avion dans le ciel. Et si l'armée syrienne avait mis le feu aux maisons, bah, les maisons que j'ai vues en face de moi, enfin, donc du quartier où il y avait les rebelles, j'ai pas vu de maison en feu. Donc, je me suis rendu compte que ça fait bizarre, hein. Mon ministère des Affaires étrangères ne disait pas la vérité, quoi. Voilà. Alors, je l'ai écrit après, j'ai même écrit dans mon bouquin sur Assad, mais en prenant exactement l'heure du communiqué par rapport à l'heure où j'étais à Alep, le 15 décembre 2016. Voilà, donc je dis, ça fait extrêmement, c'est extrêmement étrange de se rendre compte que, alors après tout un tas d'exagérations qui ensuite ont été contredites, y compris par les rebelles, que les femmes syriennes préféraient se suicider plutôt que de se faire violer par l'armée de Bachar, enfin bref, qu'il y a eu des cas de viol, etc. Et les rebelles ont dit que c'était faux. Donc nous, on a, certains journalistes français ont rapporté ces choses-là comme parole d'évangile. Et les rebelles ont fini par dire que c'était faux. Donc, vous voyez, donc c'est toujours d'où l'impérieuse nécessité, quand vous le pouvez, d'accéder à ces zones de pouvoir raconter vraiment ce qui s'y passe. Quoi. Parce que sinon, ben, voilà, c'est une intoxication générale. Chacun va reprendre l'info de l'autre. Et puis, il va y avoir l'effet mouton. Ce qui existe moins dans le journalisme à l'anglo-saxonne, où l'attitude d'un journaliste anglo-saxon, c'est de se singulariser par rapport à son concurrent. En France, c'est « ils ont fait ça, vite, faisons la même chose ». Tu vois, donc ça, c'est souvent... Alors nous, à Match, on a souvent tendance à essayer de trouver le scoop, donc à ne pas faire comme les autres, et à se dire « merde, ça a été fait, donc on ne va pas le faire, on va faire autre chose ». Mais donc il y a un effet mouton, un effet... Et puis ça devient... des mensonges comme ça deviennent des vérités. Des vérités. Alors, tout ça pour dire, je ne minimise, et vous en êtes rendu compte avec la description des frappes aériennes russes, je ne minimise absolument pas le fait qu'un camp avait plus de moyens que l'autre. C'est des sièges. Le siège d'Alep a duré 4 ans et demi. Quoi. C'est une horreur absolue. C'est une ville qui a été divisée en deux. Et les lignes de front ont évolué au fur et à mesure du conflit. Donc, évidemment, autour des lignes de front, Alep, si vous voulez, pour vous donner un point de repère, c'est 190 km², c'est deux fois Paris, hein. C'est une ville énorme. Deux fois Paris, Mossoul, c'est aussi grand, pareil. Donc, quand Alep, aujourd'hui, on vous dit un tiers d'Alep est détruite, oui, un tiers de 190 km², c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, mais ça correspond aux zones d'affrontement. C'est vraiment les quartiers les pires. Moi, j'ai visité une des nouvelles zones de front à l'ouest, qui est toujours active. Il y a un quartier qui est sur ce qu'on appelle les académies militaires. Là, c'est ce que j'ai vu de pire en destruction, c'est Verdun. C'est-à-dire que, quand je dis... On a plusieurs comparaisons avec mon photographe. Lui, il avait couvert Grozny avec les Tchétchènes. Donc, quand tu voyais le Sukhoï qui passait en rase-motte avec... Les barres d'immeubles qui commencent à pleuvoir sur des collines complètement pelées, ça c'est l'effet Grozny, quoi. Ensuite vous avez Stalingrad, alors ça c'est il reste des immeubles mais ils sont complètement pourris. Et puis Verdun, la donne Verdun pour moi c'est quand l'obus remodèle le paysage, c'est-à-dire qu'on a des vallons qui ont été faits par des explosions et tous les arbres sont complètement brûlés jusque il reste des petits troncs. Voilà, un peu un effet napalm. Voilà. Ça, c'est la composante Verdun. Et il y a des fronts à Alep qui ont été aussi endommagés. Mais globalement, la ville, elle est toujours sur pied. Hein. Il y a des quartiers qui ont été moins touchés, y compris les quartiers rebelles. Quand on écoutait ce qui se passait, on avait l'impression que les quartiers rebelles étaient systématiquement rasés. C'est pas vrai. Donc, le plus grand quartier rebelle, Anano, a relativement été épargné. Donc, et des gens ont continué à y vivre. La preuve, quand les gens continuent à y vivre, qu'ils ne vont pas vivre dans des camps, en général, c'est qu'il y a moyen de... Donc voilà. Je ne sais pas, j'espère que j'ai dépassé le temps ou non.
Là, vraiment, c'est bon. Un très grand merci. Bon.